Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Bonjour Sébastien Lecornu.
Bonjour Yves Calvi, tous mes voeux et tous mes voeux aux auditeurs d'RTL.
Merci d'être avec nous ce matin sur la première radio de France. Vous êtes le ministre chargé des collectivités territoriales, je le rappelle. En interpellant Éric Drouet, figure emblématique des Gilets jaunes, le gouvernement n'est-il pas tombé dans son propre piège?
C'est pas le gouvernement qui donne des ordres aux officiers de police judiciaire. Monsieur Drouet, il est devenu un homme politique. Peut-être même d'ailleurs un homme politico-médiatique. Et lorsque on fait de la politique, lorsqu'on passe dans les médias, pour autant on n'est pas au-dessus de la loi. Et donc lorsqu'on se balade dans Paris avec une arme par destination, bah effectivement on peut te placer sous contrôle judiciaire, c'est son cas. Et on peut te renvoyer en correctionnel au mois de juin prochain, c'est son cas.
Alors il affirme qu'il est l'objet finalement aujourd'hui d'une campagne et d'une arrestation politique, justement.
Non mais ça c'est scandaleux. Enfin la République c'est pas ça. Et moi je ne peux pas laisser dire que la police de la République ou la gendarmerie de la République ou la justice de la République est aux ordres de qui que ce soit. Donc une fois de plus, faut arrêter les délires des complots. Lorsqu'effectivement on se balade dans Paris avec une arme par destination, oui, on est appréhendé. Vous vous baladez pas avec une arme par destination dans Paris, monsieur Calvi, moi non plus.
En l'occurrence, là, il avait fixé rendez-vous, et tout à fait officiellement, à un certain nombre de ses camarades, pour ce qui était une manifestation, mais qu'il n'assume plus. Et c'est là où on se demande si, en fait, le gouvernement tombe pas dans un piège. Je veux dire, voilà.
Une fois de plus, ce n'est pas le gouvernement qui donne des instructions à la police judiciaire. Je pense aussi qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Ça met de l'huile sur le feu?
Non, mais attendez. Moi, je suis assez rural, à vrai dire, dans mes origines, donc basique dans mes analyses. Lorsqu'on ne respecte pas la loi, effectivement, on peut avoir des problèmes avec la justice. Ça s'appelle l'état de droit et c'est très bien comme ça.
Et vous êtes sûr de ne pas en faire un martyr?
Mais de toute façon, je ne fais rien. Donc par définition, je laisse la justice travailler et ça me semble très bien. Et je crois même que c'est rassurant pour les auditeurs d'RTL, qui à mon avis sont nombreux à ne pas se balader avec des armes par destination sur eux, de savoir que la justice fait son travail.
Si ce n'est que cette frange des Gilets jaunes utilise notamment cette arrestation depuis hier soir, avec une lettre ouverte publiée maintenant, et en fait est en train d'utiliser cela comme c'est... pour le coup, alors comme une arme politique.
Ils font la politique, voilà, vous venez de le dire. C'est désormais leur problème. Moi, ce que je vois, c'est que tous les signes de détente ont été accomplis ces dernières semaines. Sur le fond, bien évidemment, déjà avec l'abandon de la taxe carbone, avec les mesures favorables au pouvoir d'achat, notamment des Françaises et des Français qui travaillent, également pour les retraités les plus modestes, également sur les mesures de transition écologique. Ça, c'est pour la réponse de fond, réponse d'urgence, réponse concrète. Et puis aussi, la réponse concrète, on va en parler dans un instant, j'imagine, du débat qui va permettre de trouver des solutions. Toutes les agitations intermédiaires, notamment lorsqu'elle s'appuie sur initialement des infractions potentielles à la loi, pour moi, n'existe pas.
Vous nous dites que la fermeté est aujourd'hui d'actualité, notamment pour faire respecter la loi dans notre pays. Alors justement, Emmanuel Macron, lui, il va prendre la plume pour nous écrire, à nous Français, une lettre qui devrait être diffusée à la mi-janvier. Pour nous dire quoi, Sébastien Lecornu?
En fait, il va y avoir deux phases dans ce débat. Une phase dans laquelle nous sommes déjà rentrés, c'est la phase simple, souple, si j'ose dire, largement d'ailleurs organisé par les maires de France, notamment les maires des communes rurales, qui depuis la moitié du mois de décembre, et à mon avis les choses vont s'accélérer dès cette semaine, ont commencé à organiser le recueil des doléances, notamment en ouvrant des cahiers de doléances dans leur mairie, en organisant des débats informels dans les différentes communes. De cela, on va en tirer déjà une première synthèse. On a déjà commencé avec Vanik Berberian, le maire de l'Association des maires ruraux de France, le Premier ministre l'a fait avant Noël, et on va s'inspirer de ce premier retour, Yves Calvi, pour nourrir justement, en tout cas le Président de la République l'a souhaité comme cela, la lettre qu'il va adresser sous une quinzaine de jours maintenant à l'ensemble de nos concitoyens pour cadrer et donner les attendus du débat. Les attendus, c'est
donc
quoi?
C'est
rappeler les contenus, bien évidemment, puis aussi indiquer comment le président de la République voit le rendu de ce débat, son utilisation.
Alors, ensuite. Il y a deux choses dans ce que vous venez de me dire, mais je voudrais juste être sûr d'avoir bien compris. Ce sera d'une façon ou d'une autre une sorte de synthèse du cahier des doléances, c'est ça?
En tout cas, cette première phase souple est là déjà pour s'inspirer, pour cadrer le débat au global. Si vous cadrez le débat de manière autoritaire tout de suite, par définition, le débat a peu de chances de fonctionner. Si vous le cadrez en écoutant notamment les maires ruraux qui sont au contact de la plupart de nos concitoyens, les choses ont plus de chances de fonctionner. Les maires sont évidemment très utiles dans l'organisation du débat.
Sébastien Lecornu, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'on va avoir des réponses très claires, voire des propositions et des évolutions liées à la politique du gouvernement dans ce courrier que va nous adresser le président de la République?
Je crois que oui, d'ailleurs, dans l'adresse à la nation du président de la République pour ses vœux, quand le chef de l'État dit « on peut parler de tout, du moins d'ailleurs qu'on parle de choses vraies », parce qu'on a quand même vu beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités dans ce qui a été dit au mois de décembre. Donc je pense qu'effectivement, il faut pas passer trop de temps à débattre de choses qui sont fausses, sinon le débat servira à rien. Il faut parler de choses qui sont justes. Donc oui, on pourra parler de tout. C'est un débat de solutions. C'est la première fois que c'est organisé à cette échelle. C'est aussi une manière de gouverner qui s'affirme de manière différente sous la Ve République. Et effectivement, on peut trouver des évolutions. Je donne peut-être un exemple plus concret.
S'il vous plaît.
Transition écologique. On voit bien que sur le climat, aujourd'hui, il y a un consensus dans le pays. On n'a pas entendu d'ailleurs beaucoup de propos climato-sceptiques. C'est pas le sujet. En revanche, on voit bien qu'il n'y a pas de consensus sur le rythme, sur les mesures opérationnelles
vous dire,
à prendre.
Je vous rappelle
sur la
que ça a démarré avec le diesel quand même, cette affaire.
Oui, mais justement, c'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça que je repars par là. Personne n'a dit « la planète, on s'en fout ». Les gens ne disent pas ça. Nos concitoyens, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils disent ça. Ils disent juste, en tout cas, on n'est pas d'accord avec le rythme,
la force
des mesures qui peuvent être prises.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu, notamment sur RTL, qui tendait son micro à ceux qui étaient dans la rue et pas les plus excités. Écoutez, la transition écologique, c'est très bien, mais pour l'instant, on a des problèmes de fin de mois.
Bien sûr, c'est la fin du mois versus la fin du monde. Je pense qu'il faut débattre des deux, parce que quand on va dans l'Aude après les inondations, quand vous allez chez nos concitoyens de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy en Outre-mer, qui ont connu des difficultés majeures liées à des grandes intempéries ou à des grands phénomènes climatiques, croyez-moi, le réchauffement climatique, c'est une réalité concrète. Donc, une fois de plus, il faut gérer les contraintes et il faut partager, bien évidemment, les différentes contraintes qui s'imposent à nous tous.
Un tout petit retour en arrière. Vous venez de nous dire, finalement, les choses sont assez claires, on relève les doléances, on les synthétise et le président, à partir de cette matière, va faire des propositions tout à fait concrètes. Mais au moment où nous parlons, qui s'occupe physiquement de relever ce que nous disent les Et ce que vous disent les Français.
Alors, une fois de plus, deux phases. Dans la phase libre et souple actuellement, voilà. C'est notamment les associations d'élus qui le font. Par exemple, l'association des maires ruraux de France.
Je vais dans ma mairie, je prends le cahier.
Exactement. Vous voyez, chez moi, typiquement à Vernon, le cahier est installé depuis hier soir. Aux Anglis, ça sera fait demain. À Gisors, ça sera fait demain également, pour prendre des exemples concrets dans mon département. La semaine prochaine, avec Jean-Michel Blanquer, parce qu'il est ministre des associations également, on sera dans les Alpes pour justement réunir les maires qui ont ouvert ces cahiers de doléances. Ça, c'est la première phase. Mais ensuite, dans la grande phase, si j'ose dire, mi-janvier, mi-mars, c'est là où Chantal Jouanneau, c'est là où le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre vont constituer ce comité opérationnel à l'échelle nationale pour s'assurer que l'organisation du débat public se fait bien, selon justement les précisions que le chef de l'État va apporter dans sa lettre. C'est une construction lente et patiente, parce qu'une fois de plus, moi j'ai organisé des débats dans ma commune quand j'étais maire à Vernon.
Ben oui, mais qui choisit
quand
les débats, sujets
quand dire, vous débattez, ben justement, les cahiers de doléances vont permettre
open
de
open
le faire.
Pour tout le monde.
Typiquement, si vous prenez les premiers cahiers de doléances, ce qu'il en ressort, la justice sociale est le premier item, la justice fiscale est le deuxième item, et la justice territoriale est le troisième item. Le point commun de ces trois thèmes, c'est bien sûr la justice. Voilà. Oui. Ça, typiquement, ce sont des choses concrètes qui commencent à ressortir, mais je ne vais pas vous apprendre qu'entre Noël et le jour de l'an, bien évidemment, les choses étaient plus calmes, et donc c'est véritablement cette semaine aussi que nous reprenons évidemment le contact avec tous les maires pour bâtir justement ce cahier des charges, en quelque sorte.
Un certain nombre des Gilets jaunes affirment aujourd'hui que finalement ce grand débat national est un piège politique pour tenter de noyer d'autres sujets.
Ben, je n'y crois pas.
Que leur répondez-vous ?
C'est un procès d'intention. C'est un procès d'attention. Je veux dire, je vois pas ce qui peut laisser penser à ça ou dire cela. Voilà. Donc, je peux pas vous dire mieux. Après, si les gens ne croient pas au dialogue, c'est un autre débat et qu'ils le disent clairement.
Et vous pensez que cette mise en place est une réponse à la hauteur des attentes de ceux qui ont manifesté?
Je pense que la réponse, déjà, était une réponse sur le fond et notamment sur le pouvoir d'achat. Elle a été apportée au mois de décembre dernier. Plus de 10 milliards d'euros, bien évidemment, qui, quelque part, donnés aux Français, notamment à celles et ceux qui travaillent. Mais effectivement, sur la forme, c'est courageux de la part du président de la République que de se lancer dans ce genre de débat parce que c'est inédit, mais ça montre aussi la considération que l'on donne à chaque citoyen français. Chaque citoyen français a sa part dans la transformation du pays et il faut pouvoir en discuter et en dialoguer.
Est-ce que ça ne montre pas à quel point le pouvoir d'Emmanuel Macron a été menacé et mis en cause en fait à mi-mandat? C'est-à-dire la grande question qui est posée, c'est comment continuerez-vous à réformer le pays, puisque c'est le projet réaffirmé, je le rappelle, par le président de la République lors de ses voeux, et ce pourquoi vous avez été élu.
Et le grand débat n'exclut pas le changement. Regardez ce que fait Gérald Darmanin sur le prélèvement à la source. Regardez le décret qui a été pris sur la lutte contre la fraude à l'assurance, enfin au chômage et à l'assurance chômage. Je veux dire, on voit que les choses avancent quand même de l'autre côté. Mais on voit bien aussi que la démocratie représentative, elle connaît une crise depuis maintenant 10 ou 15 ans. Alors, pardon, mais le score des extrêmes, le vote blanc, l'abstention, tout ça ne date pas du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et oui, un an et demi après le début du quinquennat, si un débat permet de donner de l'oxygène, de réajuster les choses, de trouver des consensus, de trouver des solutions nouvelles pour avancer et continuer à réformer ce que je souhaite et ce que nous ferons, non, eh bien, il faut le faire. Un exemple sur mon ministère, peut-être, pardon, oui. Mais si le débat est utile, enfin, si les maires sont utiles au débat, il faut évidemment que le débat soit utile aux maires. Les maires réclament des mesures de simplification dans leur vie quotidienne, dans la gestion de leur mandat, de leur municipalité, de leur collectivité. Eh bien, il faut que ce débat permette aussi de sortir une trentaine de mesures, par exemple, de simplification dans leur vie quotidienne. Typiquement, il faut aussi sortir des choses utiles et concrètes, et en tout cas, je le ferai.
En règle générale, comme beaucoup de Français, ils réclament surtout des sous pour faire vivre leur commune.
Pas que ça.
Alors, un référendum sur des questions institutionnelles, on en parle depuis quelques jours, c'est intéressant. Il pourrait même avoir lieu en même temps que les élections européennes.
Aucune décision n'a été prise à ce stade.
Est-ce que vous, à titre personnel, vous y êtes favorable? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Le référendum, en bon gaulliste, ça dépend de la question que l'on souhaite poser. En tout cas, redonner la parole au peuple, évidemment, c'est une bonne chose. Moi, je suis gaulliste, donc la pratique du référendum est quelque chose qui me va bien. Mais là aussi, il faut poser des questions... Non, il ne faut jamais se méfier du peuple et de nos concitoyens. Le référendum, c'est une expression populaire reconnue par la Constitution dans un cadre légal. Donc, par définition, c'est un bon outil. Et plusieurs présidents de la République ont eu recours au référendum. Je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron décidera. En tout cas, la réalité, c'est que ça dépend de la question que l'on pose.
Voilà, tout le monde sait que c'est un risque potentiel pour tout président de la République et donc pour Emmanuel Macron aujourd'hui, après une crise sociale qui a quand même été extrêmement grave et qui a bloqué le pays pendant plusieurs semaines. Mais l'idée, ce serait de dire qu'on peut poser un certain nombre de questions à partir du moment où elles sont au moins 2, 3 ou 4, ça ne se transformerait pas à ce moment-là en un référendum anti-président de la République. Est-ce que ça vous semble être une idée qu'on doit en tout cas retenir, évaluer et à laquelle il faut réfléchir?
En tout cas, il ne faut pas la repousser, mais une fois de plus, il ne faut pas non plus la préempter parce qu'il ne faut pas casser la dynamique du débat. Le chef de l'État l'a dit lors de ses vœux, on peut débattre de tout, donc tout est à débattre, y compris la potentialité d'un référendum.
Le temps file vite, dernière question Sébastien Lecornu, en tout cas dernier thème d'intervention. Maintenir la hausse des prix des péages au 1er février, est-ce que c'était vraiment nécessaire dans le contexte que nous venons de connaître?
C'est des décisions qui ont été déjà prises et il faut savoir avancer.
Il n'y aura aucune mesure d'aménagement.
Je suis ministre des collectivités territoriales, je ne suis pas ministre.
Mais justement,
des
vous êtes
transports.
Ministre des collectivités territoriales et vous savez à quel point c'est justement nécessaire dans nos territoires de se déplacer.
Ah bah si
sur
vous
nos
interrogez
routes
le ministre des collectivités territoriales, on a un besoin d'infrastructures et donc on a besoin de les financer. Ça, c'est la réponse du ministre des collectivités territoriales. Je ne suis pas ministre des transports, en tout cas, des décisions ont été prises, moi je les assume.
On a compris qu'a priori, il n'y aura pas de fait des. En tout cas, vous ne pèserez pas sur les sociétés d'autoroute pour que ces augmentations n'aient pas lieu. J'imagine que vous n'êtes pas rentré au gouvernement pour affronter les 8 semaines qu'on vient de vivre. Qu'est-ce que vous en tirez?
Il faut être, pour le coup, transformer un pays qui ne l'a pas été en plus parfois depuis de nombreuses années. C'est forcément difficile. Ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de respect dans ce que nos concitoyens réclament.
Vous n'avez pas été respectueux? Le président n'a pas été respectueux?
Si, mais je pense qu'on gagne toujours à être le plus humble possible lorsqu'on gouverne notre pays. En tout cas, c'est ce que nous employons à faire.
Merci beaucoup Sébastien Lecornu.
Merci Yves Calvi.
Je rappelle que vous êtes ministre en charge de nos collectivités territoriales aujourd'hui. Merci d'être venu prendre la parole sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Bonne journée à vous.